Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café ou une bonne gorgée d'eau comme Catherine le fait. Hydratez-vous, c'est important.
Mais pour vrai! Pourquoi tu te tôles demain?
Je serai votre animatrice Audrey et ben je vous ai spoilé la patente. Catherine est là!
Allô, je suis encore là!
Yeah, 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 yeah. C'est parce que je t'ai enfermée dans le sous-sol. Non. Tu peux plus jamais partir. Comment ça va, Catherine?
Hey. Ça va bien? Yeah. T'as demandé comment j'allais? Je faisais juste faire des bruits, fait que j'ai pas entendu. Ah oui, ça va bien, oui, excusez.
Les gens étaient comme, ah, elle a encore mangé un coup de bumper en pleine face.
Moi? Oui, toujours. toujours. Ah, mais non, mais je pourrais profiter de cet épisode pour faire mon coming out.
Oui.
Je suis méga dispersée, vous l'avez remarqué. J'ai de la misère à enligner les phrases. Alors là, je vais lire mon script. Aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai de la misère à enligner les phrases, et le monde le savent déjà sur mon Discord,
oui.
C'est que au moment où cet épisode va sortir, je vais être enceinte de 6 mois. Ah,
t'as surprise, pas remarqué,
hein?
Si,
t'avais pas vu ma bédaine.
Comme si je salue pas ta bédaine quand j'arrive chez vous.
Non, c'est ça. Fait que j'étais encore plus dispersée que d'habitude. Yay!
Parce que t'es en train de créer la vie.
Yay! Et l'amour de maman dans mon cœur.
Yay!
Yay! Voilà, fait que c'est pour ça que je suis pas le fixe.
C'est correct.
Je cogne plus les nerfs que d'habitude aussi. C'est les hormones.
Ouais.
Ouais! Toi, t'as pas cette excuse-là, mais moi, je l'ai.
Fait que... Non, je suis juste une féministe frustrée.
Ben voilà, je connais ça. Fait que oui, bonjour, ça va bien.
Yay!
Yay, je bois de l'eau.
Alors, aujourd'hui, on cesse les épisodes en plusieurs parties. L'épisode d'aujourd'hui,
ouais.
Il va être tout ensemble d'une shot. Vous allez tout avoir, toute la patente.
Toute la patente et tout le contexte historique dont personne ne m'a demandé et dont personne ne veut rien savoir.
Ben, moi, j'avais demandé.
Tu m'as même pas demandé.
Non, tu ne
me l'as même pas demandé.
Non, ça m'intéresse.
C'est l'Encyclopédie canadienne qui m'a dit « ça pourrait être intéressant pour toi de lire ça ». Puis j'ai dit « ah oh, ouais ».
T'as fait «
oh ».
Ah ouais. Alors, vous l'aurez deviné, c'est un épisode historique.
Yay!
Mais avant de retourner dedans le temps, on va boire un petit café.
Oui.
Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, ça s'appelle... C'est du torréfacteur Za et Clo.
Hein?
Que c'est deux torréfactrices de Montréal qui font du café ensemble. Et là, je me suis dit, du café fait par deux BFF, c'est parfait pour un podcast fait par deux BFF.
Za et Clo!
Yeah, c'est leur surnom!
Ah, OK, excusez.
Alors, celui que je vous recommande aujourd'hui, c'est le Funny Clo.
Ah!
Qui est d'origine du Brésil et de la Colombie.
Oh.
Et il a des notes de praline, zeste d'orange et pain d'épices. Donc, moi, c'est vraiment ma palette.
Oh!
C'est un procédé honey process lavé.
Ah, oh, ça, c'est bon, ça!
Et moi, je l'ai pris à mon épicerie métro. Je pense qu'il commence à être de plus en plus disponible dans différents cafés et épiceries. Je sais que ouais. Mégane se l'est procuré à son café de quartier.
Ah, oh, c'est ça qu'elle nous a envoyé cette semaine.
Oui.
Ah! Oh!
Elle a le pris l'autre, moi j'ai pris lui.
Ben, c'est parce que, tu sais, on a un beau problème. On a un beau problème.
Ouais, on en a trop.
C'est qu'on en a beaucoup. Fait que moi, j'ai juste comme ma marque de café d'épicerie que j'achète. Puis à part de ça, je suis comme fournie ad vitam aeternam par vous. Chers auditeurs, chères auditrices, fait que ça fait longtemps que je suis pas allée faire un tour dans la section des cafés fancy de mon épicerie ouais, parce que je sais déjà lequel j'achète, ça, c'est comme...
Ah, j'ai à peine entamé mes cadeaux de Noël.
Ben là, je sais! Mais c'est un beau problème, on aime ça, ouais, je sais pas pour vrai.
Celui-là, en plus, je l'avais acheté avant ma fête en revenant de m'être fait tatouer la main.
Oh!
Parce que je sais pas, j'avais comme t'avais beaucoup d'endorphines dans ma tête.
Ah ouais.
Fait que c'est ça, je me suis gâtée et c'est un délicieux café. Je le trouve particulièrement bon avec du lait d'avoine. Je le trouve très crémeux.
Ah, oh, c'est bon ça.
Fait que les gens comme moi qui ne digèrent pas le lait et qui doivent prendre des alternatives, mm-hmm. sachez que ce café se marie très bien à ce problème que nous avons mm-hmm. de flore intestinale. Mm-hmm. Alors voilà, c'est le Funny Clo par le torréfacteur Za et Clo.
C'est bon, ça!
Et je tiens à dire que les sacs sont vraiment très jolis. C'est une très jolie palette oui. de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Alors...
Ben, c'est ça, c'est comme pastel, puis c'est comme des belles illustrations, vraiment douces.
Oui,
pis...
sur le côté, il y a une illustration qui ressemble même à nos illustrations. Donc, puis en oh. plus, ça disait que c'était deux BFF qui font du café, puis j'étais comme, ben là, ça le prend au podcast des deux BFF.
Ben là, on devrait un jour faire un partenariat avec, je veux dire, si Distorsion, on peut faire de ouais. la bière puis du café. Ils ont pas fait une bière aussi?
Peut-être.
Parce que nous, on présente de la bière.
Ouais, mais exactement. Je pense que c'est du café qu'ils ont fait.
Ils ont, ben, ils ont fait du café parce qu'ils nous ont envoyé ça, je le sais, mais...
Ouais, mais je suis pas sûre pour la bière, ouais. par contre. Mais
comme, pourquoi ils ont fait du café? C'est même pas de ouais, ça qu'ils ouais. parlent.
Vous êtes même pas des
pourquoi
experts.
Pourquoi nous, on n'a pas fait du café?
Vous êtes même pas des vrais.
Nous autres, on connaît ça, le café 74110, 74112, lavé, OK?
Hey!
On est spécialisé là-dedans.
Bon. Okay, s'il y a des torréfacteuristes qui nous écoutent, là, on oui. a des idées pour vous.
Oui.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, ce serait le fun.
Ah oui? Mais là,
on... Parce que je veux dire, on n'aurait rien à faire, en plus.
Ouais, on dirait juste que...
Voici les choses qu'on aime. Proposez-nous quelque chose. On et va voici... le goûter, on va voir si on veut mettre notre face dessus. Puis
c'est ça.
Ça serait écœurant.
C'est tout.
Faisons ça.
Faisons ça.
Ouais.
Soyons chiens.
Yeah.
Alors, parlant d'être chien, Catherine, ouais. de quoi tu nous parles
aujourd'hui? OK. Allô, les amis!
Allô!
Comment allez-vous?
Ça va!
Moi, ça va bien aussi!
Merci, Madame Catherine!
Yeah! Je suis de retour pour vous raconter une histoire légère et historique avant de retomber dans les féminicides terribles.
Yeah!
Yeah!
Québécoise!
Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être très, très fierté québécoise.
Oh yeah!
D'une manière un peu étrange. Et je m'excuse à l'avance pour la quantité de jokes que je vais faire sur le dos des Irlandais.
T'es des personnes blanches, correct.
Oui. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire historique avec un gros contexte historique plein de fun facts niaiseux.
Yeah!
Et ensuite, ça va enchaîner avec une petite parenthèse québécoise, vraiment très, très québécoise.
Oh, on va manger de la poutine.
Et se conclure par la fin d'une histoire qui se passe pas au Québec, pantoute, ah. mais qui est quand même liée au Québec à cause de la petite parenthèse québécoise. C'était toute une explication vague, hein, ça. Et
plus donc, c'est vague, plus on est... On est... Wow!
Je sais! Donc aujourd'hui, mes chers et mes chères, je vais vous parler de la guerre des Shiners et de la légende de Joe Monferrand.
Malade!
Ça va être malade!
Moi, je suis là pour ça!
On va virer irlandais et péter des vitrines et des yells!
Yeah!
Yeah!
I'm a lucky charm!
On va aussi peut-être donner des coups de pied au plafond à un moment donné, ça va être le fun au bout.
Wow! Flexible!
Mes sources!
Oh, comme la fille dans les Pussycats Dolls, là! Que c'était son move, là, qu'elle faisait comme un battement ouais. sur le côté parfaitement droit, là.
Oh my God!
Puis là, je me rappelle que quelqu'un
il était donc talentueuse, les postes.
Quelqu'un a fait une joke genre « Wow! Elle doit être chasseuse de girafes! »
Sans doute! Tu peux kicker dans le front, les girafes!
Qu'un! Qu'un, mon petit girafe!
Alors, mes sources. Une pléthore d'articles de l'Encyclopédie canadienne. Un article du Huffington Post. Plein de pages Wikipédia, de biographies de gens random. Et un très long et touffu article de la Historical Society of Ottawa, qui contredit toute le timeline de tous les autres articles que j'ai lus. Fait que qu'est-ce qui se passe? What's up, Historical Society of Ottawa? Vous connaissez pas vos dates ou qu'est-ce qui se passe?
Je veux dire, c'est Ottawa.
En tout cas,
ils sont occupés à aller se coucher à 9h.
I know, mais c'est ça. Fait que finalement, qu'est-ce que ça donne dans... Tu sais, in the grand scheme of things, OK? 5 ans d'écart, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Alors, on va commencer ça avec un contexte historique bien long pour rien.
Contexte historique?
Contexte historique vraiment long pour rien. On commence en 1812. On est au Canada et c'est la guerre de 1812. Qu'est-ce que c'est ça, la guerre de 1812, te demandais-je?
Et moi, je te fais ça avec mes bras. Je ne sais point.
Je ne sais point.
Je suis le petit emoji de la petite madame qui fait «
mais ». Mais c'était une guerre entre les Américains et le Canada, qui n'était pas encore le Canada. C'était encore le Upper Canada et le Lower Canada. Il n'y avait pas eu le Confederation. Mais en tout cas, pour, par souci de concision, on m'a appelé ça le Canada pareil.
Ouais, c'est correct.
Bon.
On va s'entendre.
Voyez-vous, les Américains, en bons Américains qu'ils étaient, ont essayé à plusieurs reprises d'envahir le territoire canadien en 1812, 1813, 1814, pour faire du mal à la Grande-Bretagne. Ce conflit n'est pas juste né d'un désir des Américains de foutre le bordel autour d'eux. Oh non, non! C'était plutôt la culmination d'un long conflit qui opposait, de l'autre bord de l'océan, la France de Napoléon Bonaparte et l'Angleterre de je sais pas qui. Et c'est ça qui a poussé la grande... Je sais pas, tu sais.
Oui, Chris.
Je veux dire, Napoléon éclipse pas mal toutes les autres rulers de ce temps-là. Là. Fait que bon.
Une Élisabeth, I guess.
Ah, don't know.
Une Élisabeth ou un Georges.
Peut-être même un Edward.
Peut-être
même
un William.
Henri, peut-être. Non, il voudrait ça pas. Bon, fait que ça a poussé la Grande-Bretagne à adopter des mesures qui ont rendu les Américains bien, bien fâchés. Voyez-vous, tout ça commence quand Napoléon décide de faire un blocus sur le commerce maritime des Anglais et interdit à tous les ports sous son contrôle de laisser accoster les navires anglais. Les Américains voulaient être un parti neutre dans cette belle guerre européenne. Chose qui va réarriver plein de fois.
Les
jusqu'à
États-Unis
temps qu'ils décident.
Être neutre.
Oui, ben c'est ça qu'ils ont dit qu'ils faisaient pendant la Première Guerre mondiale, puis c'est ça qu'ils ont dit qu'ils faisaient pendant la Deuxième, jusqu'à temps qu'il y ait Pearl Harbor.
C'est ça qu'ils ont dit aussi par rapport à l'Amérique latine.
Oui, c'est ça qu'ils ont dit aussi par rapport à l'Afrique, puis
le Moyen-Orient.
L'Est, le Moyen-Orient. Finalement, toute la planète.
J'aime que tu te dis, oh, je m'excuse pour les jokes d'Irlandais. J'ai les États-Unis qui sont en train de manger de la merde.
Ben, jusqu'à date, oui, mais après ça, c'est les Irlandais. Fait que, bon. Donc, les Américains voulaient être partie neutre dans cette belle guerre européenne. Mais un jour, les Anglais ont décidé de faire leur propre blocus pour empêcher les navires américains d'accoster dans les ports français. Parce que les Américains, en bon partie très neutre, étaient en train d'approvisionner en armes Napoléon.
Ah! Ah, c'est ça, être neutre, hein?
Selon les Anglais.
Mais ça, c'est comme les Américains présentement qui sauvent les gens en Palestine des armes qu'ils ont fournies à Israël. Oh non, je l'ai
dit! Mon Dieu, c'est effrayant, ça! Dis pas les affaires de même. En 1807, le HMS Leopard attaque le USS Chesapeake dans le Chesapeake Bay, proche des États-Unis. Et puis là, c'est le bout de la
merde! Ça, c'était mon bout préféré du film des Transformers.
Et les Américains décident tout de go de faire la guerre aux Anglais. Et pour ce faire, parce que, tu sais, ils sont comme ben, ben loin de l'autre bord de l'océan, les Américains ont décidé de juste envahir les colonies britanniques et le Canada. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce qu'on leur avait rien fait.
Je veux dire, depuis quand les États-Unis prennent des bonnes décisions?
Ben, je sais pas. Ben, à ce moment-là, bon, ils ont décidé de commencer ça par l'invasion de la ville de York, qui est aujourd'hui... Tu sais-tu?
Non.
Toronto!
Ah!
Ils ont commencé par envahir
Ottawa,
Toronto.
Je suis épaisse. Non, Ottawa, ça a toujours été Ottawa.
Non, Ottawa, ça n'existait pas.
C'est vrai, c'est 1865.
Ça vient de ça, en fait, Ottawa. Mais ça vient de l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Mais donc, ils envahissent la ville de Toronto en 1813. Après ça, ils prennent Fort George. Et après, ils s'assoient sur leur laurier, ce qui est une très mauvaise place pour s'asseoir. Tout le monde sait ça. Et ça donne le temps aux braves Canadiens de préparer une riposte. Alors, les Américains subissent une première défaite, puis une deuxième. À Beaver Dam, durant laquelle 600 Américains sont faits prisonniers par des régiments...
Castors, excusez.
Quoi?
Par des castors?
C'est pas par des castors,
ouais, mais
c'est
Beaver
par
Dam.
Des guerriers Mohawks et des guerriers Ganawagé.
Encore plus cool.
Garde tes jokes racistes de castors pour toi!
Non, mais ils ont été faits prisonniers à Beaver Dam.
Ouais, non, je sais,
oh, c'est des castors!
Oui, je sais, c'est une joke! Mais je voulais juste dire que les nations autochtones, ils ont joué un très grand rôle dans la guerre de 1812, puis il n'y a jamais personne qui parle de ça, fait que je voulais vous en parler pendant
nous,
un paragraphe.
Nous, on en parle!
Ben voilà!
Voilà!
Plusieurs nations se sont ralliées et ont mis de côté leurs différends pour tenter de repousser les maudits Américains sales. Et tout cela dans l'espoir de créer un jour une nation autochtone indépendante. En fait, c'est ça que les Anglais leur avaient promis. C'est arrivé? Non!
Malaise.
Très malaise. Je voulais mentionner ça parce que je voulais éviter de passer sous silence la contribution considérable des nations autochtones et métisses à la guerre de 1812, notamment celle des frères Shawnee, Tecumseh et Tenskwatawa. Non. Tenskwatawa.
OK.
Merci. Je suis vraiment désolée.
On vous fait vraiment de notre mieux,
oui.
On vous le jure.
Puis là, je me suis vraiment accrochée dans mes syllabes. Ça, c'est ça.
C'est pas un manque de respect, c'est juste des noms qu'on n'est pas habitué de voir.
C'est juste que je suis tweet, j'essaie vraiment fort. Mais c'est ça, tout ça pour dire que le chef Tecumseh, il est vraiment très, très, très réputé. Puis c'est lui qui a réussi à, comme, qui est derrière, en fait, l'unification, lui puis son frère, l'unification de plusieurs nations autochtones puis leur participation au conflit, parce que justement, il allait créer une belle nation autochtone à la fin de ça. Et les nations qui ont participé à ce conflit sont, je vais faire ben mon possible pour les prononcer comme faut, les Potawatomi, les Ojibwe, les Sani, les Adawé et les Kikapo.
Moi, je trouve que ça va être une bonne job.
J'ai essayé très fort! OK. Alors, les forces britanniques à Beaver Dam, ainsi que les autochtones
rouges
dont on parle jamais. Oui, ils ont été avertis de l'attaque des Américains par une brave jeune femme qui s'appelait...
Laura Secor,
qui a ensuite sûrement commencé à faire du chocolat. Mais sérieusement, ouais, c'est dans cette bataille-là que s'est illustrée la brave patriote canadienne Laura Secor, qui a hiké 32 km de Queenston à Beaver Dam pour aller avertir les troupes.
Laura!
Puis oui, j'ai regardé genre la minute de Heritage Canada sur Laura Secor. Puis j'ai pas appris grand-chose de plus.
Je m'en rappelle de cette minute-là, en plus.
Oui, je sais, en tout cas. Bon, après ça, il y a eu d'autres batailles. Sur et autour des Grands Lacs, les British y ont pris Buffalo. Et quand la ville de Niagara-on-the-Lake a été envahie par les US...
Ah non!
Oh, le monde était fâché! Puis là, les Brits y ont mis Washington à feu et à sang en août 1813. Washington D.C., là.
Ouais.
Ouais. Puis un jour, les British, ils ont aussi pris la ville de Détroit. Puis il y a un dos nommé Harrison qui a mené une gang de fermiers américains du Kentucky pour libérer Détroit. Ça a fonctionné, mais éventuellement, ben l'effort de guerre s'est comme dissipé parce que les fermiers voulaient retourner s'occuper de leurs fermes.
Ouais, mais là, mes vaches là.
Non, c'est une vraie histoire ça.
Ouais, oui. Il y a eu les vaches.
Mais c'est bien niaiseux.
Ouais. Mais ils ont une job à faire, les fermiers.
Mais oui, mais je recrute d'autres mondes.
Je veux dire, je veux bien péter des gueules à des Anglais, mais ma belle vache Daisy, elle va pas traire toute seule.
Bon, en tout cas, fait que c'est pendant ce pan de la guerre que Tecumseh a été tué. Puis là, l'affaire de l'Alliance et les Autochtones, ben les Brits étaient comme « Ouais, mais il est mort, le dude à qui on a fait une promesse. »
Il a comme il a comme pas laissé de papier et oups, j'ai échappé dans le feu.
Oui. Bon, en tout cas, fait qu'on est en 1813. La guerre a migré jusqu'au Québec, jusqu'au Bas-Canada.
Oh, ils sont rendus chez nous!
Les armées d'occupation canadienne étaient méga
grosses. Je pensais
grosses.
Que t'allais dire occupation double.
Oui, les armées d'occupation double étaient méga grosses. Et les Canadiens ont donc réussi à repousser les Américains jusqu'à l'invasion de Châteauguay.
Excusez.
De Châteauguay!
J'arrête.
Les 25 et 26 octobre. Et puis, une maudite chance. Parce que sinon, on n'aurait peut-être pas eu la toune de Beaux Dommages.
Oh non!
Là, la guerre était déjà en train de s'essouffler un peu, puis les Américains sont vraiment défaits à partir du moment où la vapeur se renverse, et tout à coup, c'est plus les Américains qui envahissent le Canada, c'est les Britanniques qui se rendent jusqu'à New York et qui ne reculent plus, et là, les Américains décident de capituler, puis ils signent le traité de Gand, puis c'est fini. Tout ça pour dire que, pendant ce conflit-là, le Canada s'est dit « Hey, ce serait vraiment le fun qu'on ait un canal pour aller de la rivière Ottawa au lac Ontario, puis, tu sais, faciliter le transport militaire si on se fait réenvahir par les Américains. »
Ce serait une pas pire idée. Puis là, la CAQ était comme « Ouais, mais tu sais, une équipe de hockey. »
« Ouais, mais tu sais, le troisième lien. »
« Hein? Tu pensais à celle-là? »
Ouais. Mais non. Il n'y avait pas les Kings de Los Angeles dans ce temps-là! Et puis, avec cette belle réflexion et la guerre de 1812, est née l'idée du canal Rideau. Partie 2, la construction d'un rêve. La construction de ce bassin incroyable ou de ce passage incroyable ou whatever incroyable que c'est par le canal Rideau, là, ça commence en 1815 lorsque la couronne britannique envoie des génies ingénieurs.
Des génieurs.
Des génieurs pour explorer les voies maritimes dans le bout du lac Rideau. Le projet est rapidement mis sur la glace pour des raisons bureaucratiques. Et reporté jusqu'en 1826, puisque anyway, les Américains avaient pu essayer de nous envahir après, fait que c'était comme plus urgent. C'est le moment où, en 1826, le duc Wellington est élu premier ministre de l'Angleterre et décide que...
Hey, est-ce qu'il venait avec son bœuf?
Absolument! Et il a dit « Ah, ça fait assez longtemps que ça brette, cette histoire de canal Rideau, on va le faire! » Là, 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 là. Et là, le premier ministre Wellington a choisi un lieutenant qui s'appelait le lieutenant-colonel Bye. Son nom de famille, c'était Bye, B-Y.
Bye bye!
Bye bye! Un autre génie génial du génie royal des British, il lui demande de chapeauter l'opération. D'abord, il faut choisir un tracé officiel pour le canal. C'est le fun, ce bout-là. C'est pas dangereux ni rien. Et, non, en fait, c'est difficile que l'arbre de faire un tracé dans ce temps-là parce que les pauvres arpenteurs géomètres, ils travaillent à la main, ils se promènent nu-pieds dans le bois, puis ils creusent le sol avec des pioches et des pelles.
Souliers, qu'est-ce qui se passe?
Ils transportent la chenoute avec des brouettes.
Mais ça existait des souliers dans ce temps-là!
Mais je sais pas pourquoi! Puis ils font sauter les roches avec la poudre à fusil quand il y en a, parce que why not? C'est moins pire que la dynamite pour construire le chemin de fer transcanadien.
Non, ça sonne comme des gossous qui font n'importe quoi. Là.
Non, mais c'est des arpenteurs géomètres, des génies géniales british, là. British, là!
Je suis pas sûre qu'ils ont envoyé leurs meilleurs people.
Bon, ils doivent aussi abattre des arbres à la main. Gang, oui, crapoute puis sa gang d'arpenteurs géomètres. Puis là, ils doivent aussi abattre les arbres à la main. Et puis tout ça, c'est sans compter la malaria qui fait des ravages sur le chantier parce qu'on s'entend qu'ils se promènent d'une rivière jusqu'à un lac, fait qu'il y a des bouts qui sont un petit peu marécageux.
Wesh! Puis eux, ils sont nu-pieds.
Puis ils sont nu-pieds, en train de tout pogner la malaria. Et en fait, c'est tellement pas le fun. Il y a tellement de pauvres ouvriers qui tombent malades à cause de la fièvre et marécage, comme on appelle ça, que les travaux sont suspendus pendant plusieurs semaines à l'été 1828.
Le temps que tout le monde ait la grippe.
Puis qu'on développe des anticorps. Puis même le lieutenant-colonel Bye, il passe proche d'y passer. Non!
Oh non! On y a pas dit bye finalement!
Non! Finalement, il est correct. Il est correct.
Bye!
Inquiétez-vous pas pour lui. Sauf que là, là, en raison des conditions de travail freaking pénibles pour tout le monde, le lieutenant-colonel Bye commence à manquer de travailleurs. Il doit donc faire ce qu'on faisait dans ce temps-là, faire venir 2000 travailleurs drette de l'Irlande.
Ben oui.
Ben oui. Ceux-ci s'établissent dans le bout d'Ottawa, dans un endroit qui, alors, était nommé Bytown, parce que lieutenant-colonel Bye...
C'est sa ville à lui, fait qu'il a mis son nom dessus.
C'est ça. Puis finalement, les travaux se terminent en 1832. La voie de navigation du canal Rideau comporte alors 47 écluses et 52 barrages. Et les écluses, justement, font l'objet d'un gros scandale en raison des coûts de construction associés à leurs portes, qui étaient de 100 livres sterling chaque.
How dare you!
Je sais. Ben, le monde, pour vrai, le monde a vraiment dit « How dare you? » Parce que ça peut ne sembler pas être beaucoup, mais c'était comme beaucoup de fois le salaire des travailleurs qui étaient payés, les plus chers étaient payés 7 shillings par jour, et les Irlandais, qui étaient considérés comme une sous-classe de personnes, ouais, étaient payés 2 shillings par jour.
Et une pétaque.
Puis, 1 shilling, c'était un 20e de livre, donc pour genre 2500 fois le salaire des pauvres Irlandais, le lieutenant-colonel faisait construire des portes d'écluses. Puis une fois que ça s'est remonté à l'Empire britannique, ben il était comme « Yesh! » Puis à cause de ça, quand le lieutenant-colonel Bye est retourné en Angleterre après ça, il était genre la risée de tous les aristocrates, puis il est mort 3 ans plus tard, un homme détruit par la vie.
Oh, on lui a dit bye.
On lui a dit vraiment bye. Tout cela étant dit, c'est le temps de commencer à parler de crimes.
Oh! J'ai hâte. Et d'Irlandais?
Partie 3. Ils sont déjà là, les Irlandais. C'est ceux qui sont payés 2 shillings. Une place le fun nommée Bytown, puis un petit dude nommé Joe.
Won't you take me to Bytown? Take me to Bytown? J'espère que Naoui, elle va nous mettre un petit violon de jig quand on va parler des Irlandais.
Non, j'espère que non. Parce qu'on va en parler sans arrêt, là. Ça va être long s'il y a un petit violon de jig. Tout là. Bon, après la construction du canal Rideau, tous les immigrants irlandais qui avaient été chippés au Canada pour travailler à 2 shillings par jour puis abattre des arbres avec leurs mains puis se faire piquer par des bébites se retrouvent avec comme...
Puncher des arbres d'en face.
Beaucoup de temps libre et pas beaucoup de possibilités d'emploi.
Aïe, aïe, aïe. C'est pas une bonne combinaison.
Non! On en a déjà parlé un petit peu dans mon épisode sur Donald Morrison for Donald's Award. de la discrimination que vivaient les Irlandais au Canada à l'époque. Rappelons juste pour le fun du contexte que les Irlandais étaient comme qui dirait mal vus parce qu'ils étaient peut-être pleins de tuberculose. Pas vraiment, c'était juste le racisme.
Plein de maladies.
Et parce qu'ils voulaient conserver leur Irlandais ways et refusaient de s'assimiler à la vie canadienne, notamment souvent à l'Église catholique. Apparemment, c'était souvent des Irlandais protestants qui venaient. Pis ça, là, l'Église catholique, là, là,
il était comme...
No. Alors, ce n'était pas tous les Irlandais qui étaient protestants, mais mettons que cet aspect-là joue un rôle bien important dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Alors, les Irlandais ils vivent dans le bout de Bytown, qui est aujourd'hui Ottawa, et ils peinent à trouver de l'ouvrage.
Non, Toronto.
Non, Ottawa.
Ah, OK.
Bytown, c'est Ottawa.
Ah, OK.
C'était York qui était Toronto.
Excusez, je mélange les gens.
T'es pas à jour dans ta old-timey géographie.
Je volerai pas la job à Charles Boucher.
Non. Et alors, ils peinent à se trouver de l'ouvrage parce que, voyez-vous, il existe un domaine qui est très, très en demande et très lucratif dans le bout, qui est le timber trade, l'industrie du bois.
Le et Tim Hortons.
Non, le timber trade. Comment la toune de Pitbull et Kesha? It's going down.
Oh, j'étais comme...
I'm yelling timber! Ben, c'est ça qu'ils faisaient eux autres tout le temps. Mais là, l'affaire, c'est que cette industrie est principalement monopolisée par les magnats du bois britanniques qui engagent surtout des Canadiens français parce qu'apparemment, ils ont la réputation d'être très travaillants et des super bons employés, très commodes.
Je confirme. C'est des Québécoises!
Exact! C'est ce que c'est d'être une Québécoise! Mais pas tous les magnats du bois sont créés pareil, comme on dit. J'ai mis beaucoup de locutions anglophones que j'ai juste traduit tout croche là-dedans.
C'est correct.
En l'honneur des Irlandais. Donc, un des magnats du bout, c'est Peter Allen. Peter Allen, c'est un tout croche.
Oh, non!
Peter Allen est né soit à Liverpool dans une famille irlandaise ou en Irlande, puis ensuite sa famille a déménagé à Liverpool. On le sait pas trop. À la base, son nom, c'est Peter Vallely, mais il l'a changé pour Allen. Oui?
Peter Vallely!
Vallely!
C'est donc un beau nom. Pourquoi qu'il l'a changé?
C'est comme Millie Vanilli.
Je sais. Oui, il y a le nom d'un chanteur de chambre des années 80.
Okay.
Mais Peter Vallely.
Mais t'es comme, pourquoi il l'a changé?
Ben oui.
Il l'a changé parce qu'il est arrivé au Canada à l'âge de 16 ans comme un vrai petit jeune qui vient se trouver une fortune dans la terre promise du Bas-Canada.
Je suis venu faire du backpacking!
Yeah! Ou comme un vrai petit jeune qui était, comme qui dirait, engagé dans la marine marchande en tant que garçon de cabine puis qui a juste déserté quand on a accosté à Québec.
Ah!
C'est pour ça qu'il a changé de nom.
Peter Vallely.
Whoop! Non, I'm no longer Peter Vallely. Mon nom, c'est Peter Allen.
Ça swing moins. T'as moins l'air de quelqu'un qui chante au casino l'après-midi.
Peter Vallely! Mais donc, Peter Allen, il a... comme disent les anglophones, il a jump ship quand il est arrivé.
Ah, il a calissé son camp.
Il a calissé son camp de la marine marchande britannique et ça ne laissait présager qu'il était un homme sans foi ni loi.
Oh.
Et donc, il est arrivé à l'âge de 16 ans, puis après ça, on a perdu sa trace pendant à peu près genre une quinzaine d'années. Puis quand lui était dans la mi-trentaine, mettons, vers 1830, Peter Allen était devenu un des magnats du bois de l'Outaouais. Et...
assis sur son trône de bois.
Non, mais pour vrai, c'est
plein
son trône.
Plein de splinters.
C'est une vraie affaire. C'est comme, dans ce temps-là, il y avait une affaire qui s'appelait le privilège Gatineau, entre guillemets. C'est un groupe de personnes, c'est quasi aristocratique, okay, qui partagent les droits de coupe de bois dans le coin de la rivière Gatineau. Puis lui fait partie de cette espèce de société-là. Là, okay? Puis c'est eux qui ont le monopole, la coupe de bois. Puis Allen, lui, là, il aime beaucoup engager les Irlandais. Peut-être par solidarité irlandaise.
Yes.
On le sait
bien,
pas.
Bien, on va aller giga ensemble.
Who knows? Et c'est ça qui va faire engager des Irlandais. C'est ça qu'ils faisaient avant. Puis là, à partir de la fin de la construction du canal de la Chine, ben, il y en avait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui étaient là. Puis c'est comme, venez travailler pour moi. Mais l'affaire, c'est que il a comme engagé bien du monde, mais il n'y avait pas vraiment de job à leur faire.
Fait que c'est là qu'ils ont parti Riverdance.
Non! C'est pas là qu'ils ont parti Riverdance, OK? Puis ils ont engagé tous ces gens-là, même si vers la fin du chantier de construction, là, les Irlandais, dans le bout de Bytown, ils avaient la réputation d'être pas mal bagarreurs, et ils étaient déjà connus pour faire la vie dure à tous les habitants du coin, meaning les autres bûcherons puis les citoyens normaux aussi de Bytown qui n'ont rien à voir avec l'industrie du bois. Et par faire la vie dure, je veux dire, les Irlandais dans le bout Surtout ceux qui étaient employés par Peter Allen étaient connus pour intimider, battre, attaquer, pourchasser et agresser les gens du coin.
Oh non, c'était des bullies!
C'était des gros bullies.
De films des années 80.
Et pourquoi faisait-il cela? Eh bien, pour se faire une place dans le milieu de la bûcherie, du bûchage!
Fait qu'il bûchait du monde.
Il bûchait du monde! Et là, les gens du coin, est-ce qu'ils se laissaient faire? Eh oui. Tous, mais non! Un petit village résistait encore et toujours à l'envahisseur.
Oh, Astérix!
Astérix! Non, une personne plutôt. Et c'est ici que fait son entrée un héros légendaire canadien-français qui s'appelle Joe Monferrand!
Paclaw! Défonce la porte!
Il les a roundhouse kick dans le front, Joe Monferrand!
Là, c'est comme quand Gaston y arrive dans le bar, puis le monde se peuvent plus.
Oui, c'est ça.
Le plus fort, c'est Joe Monferrand!
Oui! Plus costaud, c'est Joe Monferrand. Bon, non, mais pour vrai, moi, je pensais que Joe Monferrand, c'était comme le géant qui avait des bottes de 7 lieues, là. Tu sais, je pensais, ouais. pensais pas que c'était une vraie affaire.
Non, non, c'est une vraie personne.
Mais c'est une vraie personne. OK. Fait que Joe Monferrand, c'est un homme fort canadien-français dont la légende s'étend bien au-delà de Bytown, mais c'est peut-être aussi là qu'elle trouve son origine. Mais qui était donc ce bel inconnu?
Oh.
Joe Monferrand est né Joseph Favre. À Montréal.
Ça swing un peu moins.
Le 25 octobre 1802, il était un colosse pour l'époque. Il mesurait 2 mètres. C'est comme genre 6 pieds 4, 6 pieds 5.
Ouais.
C'était très grand pour l'époque. Et il était vraiment bâti. Et il était.
Non, mais je suis déjà en amour. Là.
C'est il était vrai. Bâti comme un beau dieu blond.
Ah, je suis déjà vendue. C'est tard.
Oh, on est déjà là.
Ah, oh, c'est tard.
Oh mon dieu, il était magnifique.
Je vais juste imaginer Chris Hemsworth avec une chemise à carreaux.
Si ça te tente, même comme plus jeune. Mais c'est ça. Oh. Il devient célèbre dans le bout de Montréal à partir de l'âge de 16 ans quand il décide qu'il va débarrasser le quartier Saint-Laurent de 3 brutes qui terrorisaient les gens du quartier. Et il fait ça en leur pétant la gueule, bien sûr. Et par la suite, ben, il devient célèbre pour ses combats. Puis il devient comme... Tu sais, c'est un homme fort canadien. Fait qu'il devient comme un bagarreur professionnel, un boxeur avant que la boxe existe. Puis en 1828, il est invité à un combat au Quai de la Reine à Québec devant une foule incroyable et il défait le champion de la marine anglaise. Et là, il est sacré le roi des boulets, entre guillemets. Yeah!
Des boulets.
Je sais pas ce que ça veut dire. C'était le roi des boulets! Puis après
comme
ça,
Isabelle
monde...
Boulet?
Ah, I don't know. Non, B-O-U-L-E.
Ah, d'accord.
Les boulets. Comme... L-E-S. Je sais pas.
OK.
Je sais pas. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, les gens, ils étaient comme... Ils voulaient se battre contre lui parce que c'est comme... Ils voulaient prendre son titre du roi des boulets, tu sais.
C'est comme dans Letterkenny. The toughest guy in Letterkenny. Puis là, tout le monde veut y péter à gueule. C'est
exactement
pour
ça.
Être the toughest guy in Letterkenny.
Mais là, c'était le toughest guy in Lower Canada, là.
Yes, sir.
Mais là, il n'est pas juste un beau gosse au gros bras de Monferrand. Comme son père, il est aussi un trappeur. Et il travaille dans l'industrie des fourrures, à la baie du Tson.
Oh, il a trappé mon cœur!
Oh, c'est beau! Et donc, il travaille à la baie du Tson de 1823 à 1827.
Oh, il était caissier au labé.
Oui, il était caissier au labé. Et ensuite, il se réoriente vers l'industrie du bois, parce que sans doute qu'il faisait moins fret dans la région de l'Outaouais. Et c'est ici que l'histoire de Joe Monferrand croise celle des Shiners.
Oh!
Selon la légende, en 1829, Joe Monferrand est un bûcheron en Outaouais. D'abord, il a travaillé pour un gars qui s'appelait Joseph Moore, puis là maintenant, il travaille pour Baxter Bowman, qui est un magnat du... Apparemment,
chien.
Il est bien connu. Non! C'est terrible avec tes jokes! OK, donc, il travaille pour... Baxter Bowman, qui est apparemment quelqu'un bien, bien connu. C'est un magnat du bois bien important de l'époque. Puis c'était un des principaux rivaux de Peter
Allen. C'est parce que c'est un chien.
Ce n'est pas le docteur Malamute.
C'est clairement un basset!
Non, c'est un boxeur terrier.
OK! Okay.
C'est Baxter, bon.
Bon! Okay.
Fait que c'est un des principaux rivaux de Peter Allen. Et Joe Monferrand... Il fait juste être un bon bûcheron. Puis apparemment, tu sais, ses boss l'aiment beaucoup. Puis il est super bon. Puis on dirait que sa vie de bagarreur est derrière lui. Jusqu'à ce qu'un soir, il soit embusqué par des Irlandais sur le pont de la Chaudière à Hull. On ne sait pas trop ce que les Irlandais lui veulent ce soir-là. Peut-être lui voler son cash, son linge, son cœur.
Lui faire un wedgie.
Lui faire un gros wedgie. Ou lui voler son titre du roi des boulets.
The toughest guy in the lower Canada.
Ouais. Mais ce qu'on sait avec certitude, avec la garantie des légendes canadiennes-françaises qui sont super fiables, ouais. C'est que Joe Monferrand, ce soir-là, tue seul comme un grand, combat 150 Irlandais et les pitch toutes en bas du pont, drette dans Rivière-Outaouais. Bing, bang, splash, bing, bang, splash, bing, splash, splash, splash! 150! Il en a pris 150 d'une shot! Ouais!
Puis c'est juste arrêté pour prendre une swig de bière!
Ouais!
Yes!
Yeah!
Puis... splash, splash, tout en crissant des Irlandais dans la rivière! Tout,
fait, ça, c'est justement comme un des hauts faits d'armes de Joe Monferrand.
Ah!
Et c'est bien plate pour Joe Monferrand, mais on est en 1829, puis comme le canal Rideau, il était même pas fini de construire, puis c'était même pas encore vraiment la guerre des Shiners, fait que c'est malheureusement pas Joe Monferrand, notre légendaire canadien-français, qui a mis un frein à cette histoire que je vais vous conter bientôt.
OK, mais là, juste précision, les Irlandais, on niaise, on vous aime.
Oui, mais Joe Monferrand, il en a pitché 150 en bas du pont.
On veut pas vous crisser en bas du pont, là.
Ça, c'est la vérité vraie, OK? C'est le gospel truth, comme dans le film de Hercule.
Mm-hmm. Bon. Absolument.
Voilà.
Zéro héros, zéro héros.
Tout ce que je voulais vous dire en finissant, c'est que l'autre haut fait d'armes de Joe Monferrand, auquel tu as fait référence tantôt, avec la danseuse des Pussycat Dolls, c'est qu'apparemment, il était connu pour kicker dans le plafond quand il rentrait dans une taverne, ce que je trouve qu'il est comme... fucking mal élevé.
C'est tout un power move.
Oui, mais je trouve que c'est vraiment mal élevé, mais comme le monde trouvait ça vraiment cool.
Mais dans ma tête, il fait ça comme la fille des Pussycat Dolls.
Avec tout ce style-là.
Ou c'est elle qui a entendu parler de la légende de Joe Monferrand, puis elle est comme « Oh! Oh! »
Ça, c'est mon jam.
Je vais kicker avec mes talons hauts dans le toit du club.
Wow! Fait que c'est ça. Lui, apparemment, il faisait ça, puis il y avait beaucoup de tenanciers de tavernes dans ce coin-là qui se vantaient d'avoir... l'empreinte du gros pied géant de Joe Monferrand sur leur plafond.
Wow!
C'était comme un... C'était comme un badge d'honneur, là. Oui, c'est ça. C'était, hey, c'était incroyable. On a eu la visite de Joe Monferrand chez nous. Checké la trace.
Il a vidé mes barils, puis il a crissé tout le monde dans la rivière.
Voilà. Fait que malheureusement, c'est la fin de Joe Monferrand dans cette histoire.
Oh, mais il va rester dans mon cœur.
Oui, je sais bien. OK. Fait que là, de retour à l'histoire des Irlandais.
Oui.
Tout le monde a eu les Irlandais.
Ils nos planchers avec leur river dance.
Fait que c'est ça. L'affaire, c'est que tout le monde a eu les Irlandais. Puis là, je vais enfin répondre à votre question de pourquoi Peter Allen y engageait autant de gars s'il n'y avait pas de job à leur faire parce qu'il n'y avait pas tant de bûcherons.
Parce qu'il n'y avait pas d'amis.
C'est parce que il y a une autre sorte de job à leur donner. Peter Allen contrôle les débits de boissons et les voies d'accès à Bytown, y compris le pont Union, et son rêve, c'est de contrôler l'industrie du bois au complet. Et pour ce faire, il faudrait bien chasser les maudits Brits puis les Canadiens français du bout, non? Alors, Peter Allen décide de rallier les Irlandais et les envoyer attaquer les chantiers de leurs rivaux. Et c'est le début de ce qu'on appelle la guerre des Shiners. Fait que là, petite explication. Ils appellent ça de même parce que Shiner, c'était le surnom qu'on donnait aux Irlandais. Ça vient apparemment d'un autre surnom donné aux Irlandais en français que les gens n'étaient pas capables de prononcer, qui était Shiner, parce qu'ils coupaient des chaînes. Puis là, les anglophones étaient comme Shiner! 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 Voilà, c'est ça.
C'est original!
Et là, les Irlandais se sont appropriés le surnom parce que ce qu'on arbore fièrement ne peut pas être utilisé pour nous faire du mal, pour citer les sages paroles de Tyrion Lannister dans Game of Thrones.
Exactement!
Non, mais c'est ça. Ils ont décidé de s'approprier ça, qui était comme une insulte, puis ils ont décidé que c'était leur nom. Il y a aussi trois autres théories pour expliquer le surnom. On sait pas pantoute d'où ça vient. Ça pourrait être parce que les Shiners voulaient shine plus fort que les autres. Shine bright like a diamond. Sinon, ça pourrait être parce qu'il était payé avec des sous vraiment brillants par Peter Allen, fait que ça shinait. Ou sinon, comme moi, la première théorie à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ça, c'est que, tu sais, un shiner, c'est un surnom pour un œil au beurre noir, puis ils sont connus pour comme tabasser le monde. Fait que, comme,
ouais, moi aussi, depuis tantôt, je suis comme...
Ben là, j'ai dû creuser beaucoup pour arriver à ça sur Internet, avoir une source fiable qui dit « Ah, c'était peut-être ça, l'explication. » Je suis comme « Ben, ça se peut que ce soit beaucoup ça, l'explication. »
C'est des péteurs d'yeul, me semble.
Fait que leur surnom, c'est les péteurs d'yeul. Tu sais, je trouve que ça tombe sous le sens. Ben donc, OK, pour les Shiners, tous les moyens sont bons pour causer du grabuge et perturber les travailleurs rivaux et, par tous les moyens, je veux dire surtout la violence. Donc, à partir de 1835, par exemple, les Shiners commencent à interdire que les radeaux canadiens français descendent sur la rivière Ottawa vers Montréal. Comment interdire ça? En attaquant les embarcations puis en les crissant en feu. puis en pitchant le monde dans l'eau.
Ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne super bien, puis ça flotte mal un canon en feu aussi.
Ah oui.
Puis les Shiners commencent aussi à incendier les commerces et les maisons des Canadiens français qui leur résistent, incluant les bûcherons, mais aussi des fermiers, puis toute leur famille, puis le monde qui n'ont pas rapport pantoute. Et les Shiners vont aussi brutaliser, humilier et tuer ceux qui s'opposent à eux. Des trains de bois sont attaqués et confisqués. C'est des détournements de trains. C'est comme le Far West, sérieux, là.
Oh,
les Canadiens français qui travaillent dans le coin sont chassés et battus par des groupes de Shiners. Et les anecdotes concernant cette époque, malheureusement, les anecdotes comme vraiment spécifiques qui n'ont pas l'air de Joe Monferrand qui clique un plafond, c'était assez difficile à trouver. Tout semble avoir été un petit peu déformé par la légende, comme Joe Monferrand qui clique un plafond. Puis c'était difficile pour moi de corroborer les histoires que je trouvais en ligne. Fait qu'on va entrer dans... la terre de la spéculation.
Speculation.
This is the land of allegation. Comme la toune de
Genesis.
Voilà. Alors,
avec les marionnettes qui font peur.
Trigger warning. Beaucoup de violence. Violence faite aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux animaux.
Oh non!
Oui. Fait que skippez 30 secondes si vous aimez pas ce bout-là.
OK, bye!
D'abord, les Shiners s'en prendraient, conditionnels, on sait pas trop, pas mal à tout ce qui bouge, du style qui serait connu pour avoir dénudé des enfants et les avoir laissés dehors dans la neige. Les enfants des bûcherons, bien entendu, pas des enfants random. C'est quand même des enfants random, mais tu sais, il y avait une certaine logique là-dedans selon eux. Ils auraient aussi possiblement empoisonné des puits, harceler des femmes dans la rue, casser des carreaux de fenêtres. Une fois, ils auraient peut-être interrompu un cortège funèbre et pitché le pauvre cercueil qui avait rien demandé dans la rue.
Mais voyons.
Puis il y a une anecdote, par exemple, que j'ai réussi à corroborer à deux endroits, fait que je vais la dire pas au conditionnel. Une fois, ils attaquent définitivement la femme d'un fermier. Le fermier, c'était M. Hobbs. Madame Hobbs est enceinte. Elle se promène en traîneau avec des amis et des membres de la famille qui sont toutes des femmes. Et les Shiners attaquent le traîneau. Ils battent les femmes avec des bâtons de bois. Madame Hobbs essaie de sauter en bas du traîneau pour se sauver, mais son linge reste pogné dans les roues du traîneau puis elle est traînée sur une certaine distance avant d'arriver à se déprendre. Puis là, je réalise qu'il n'y a pas de roue sur un traîneau. Mais en tout cas, elle doit rester pognée dans les patins du traîneau.
Les skis.
Ouais, les skis, cette affaire-là. Le traîneau s'immobilise enfin et les Shiners coupent les rênes des chevaux et partent avec les chevaux. Puis les chevaux rentrent le lendemain, ils ont été mutilés aux oreilles et à la queue. Puis ça, c'est la chose que j'ai réussi à corroborer à plus qu'une place.
Mais pourquoi ils ont attaqué les femmes?
Ça donne quand même une idée. Parce que ça va faire peur à leur mari. Pour vrai, c'est comme si 100 fois ni loi, là, cette histoire-là. C'est complètement fou.
La violence augmente. Deadwood, ma foi.
Oui, oui, vraiment beaucoup. La violence augmente encore plus quand les Shiners et Peter Allen, 100 ans, décident de prendre contrôle de toute la ville, pas juste l'industrie du bois.
On dirait un film du Far West.
C'est comme Peaky Blinders, cette histoire-là. Donc, je l'ai déjà dit, Allen possède des débits de boissons et des voies de déplacement dans Bytown. Et ce qu'il veut, comme Scar dans Le Roi Lion, c'est le reste de la ville. Et c'est tout. Ici qu'on va aller prendre une petite break d'une couple de secondes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
On est de retour de notre break. Alors, les gens se font régulièrement battre dans la rue de Bytown. Dans les rues de Bytown, il y en a plusieurs. Et quand les Shiners sont poursuivis par la police, ben, ils font juste se sauver au Bas-Canada pour échapper à la
justice.
La justice, oui, c'est ça. Et quand ils se font poursuivre quand même, c'est quand même assez rare et ils sont pas attrapés parce que Peter Allen paie les policiers.
Il court vite en esti.
Non, Peter Allen paie les policiers, il a la police dans sa poche. Et de toute manière, les riches de Bytown sont comme complètement désintéressés de la question tant que ça reste confiné à Lower Bytown, tu sais, qui est comme le Bytown des pauvres. Fait que les riches sont comme, mais c'est pas chez nous, je vois pas, y a pas de problème.
Comme ici, on s'en sac, c'est hashtag, whatever.
Oui, exactement. Ils disent, à mon avis, qu'ils s'arrangent, on les entend pas crier par-dessus le bruit de nos millions. Voilà, c'est à peu près ça. Une autre affaire. même si la police avait réussi à arrêter les Shiners, il n'y a pas de prison à Bytown. La plus proche est à Perth, qui est à 55 000 de distance, ça fait à peu près 100 km.
Tout un ride.
Les pauvres constables, là, sont pas payés assez cher pour escorter des dangereux criminels qui pètent la gueule aux femmes et aux enfants pendant 100 km sur une route vraiment périlleuse où ils pourraient être embusqués à n'importe quel moment par d'autres Shiners, tu sais. Fait que c'est comme un peu difficile de faire régner la loi et l'ordre à Bytown. On va s'entendre.
C'est comme Daisy Town de Lucky Luca.
Oui, exactement! Prochaine partie. De retour aux Shiners. Les entrepreneurs forestiers... Non, j'étais encore là, les Shiners. Je sais pas pourquoi on est de retour aux Shiners.
Tu peux pas te débarrasser de nous, what the Peaky Fucking Blinders!
Oui, les Peaky Fucking Blinders. Bon. Les entrepreneurs forestiers, sans surprise aucune, en viennent à détester les mots de Shiners, mais aussi tous les Irlandais en général, parce que sont comme des give Irlandais a bad name.
The give Irlandais
a bad name. J'ai pas assez de chansons.
Hey, j'ai hâte à l'adaptation CBC de cette histoire-là.
Ça a été cœur, hein?
Ça a été cœur, hein?
Puis apparemment, étrangement, moi je m'attendais pas à ça, mais c'est les Écossais qui décident plus que tout autre groupe que les Irlandais sont désormais leur ennemi juré.
Parce que comme on est juste un à côté de l'autre, le monde nous mélange tout le temps.
Oui, ben oui, mais moi j'aurais pensé qu'ils allaient faire front commun dans leur rage
comme
contre le...
dans Braveheart!
Ben c'est ça, moi je pensais à Braveheart, mais apparemment non, Braveheart et Mel Gibson n'étaient pas au rendez-vous.
Non.
Et malgré les frustrations des entrepreneurs, on se souvient que les riches et puissants de Bytown se contre-crissent de la question, parce que ça se déroule dans le Bytown des pauvres. Mais là, les riches commencent à porter attention à cette histoire-là à partir du moment où ils commencent à perdre de l'argent.
Ah, c'est plate, ça!
Voyez-vous, Bytown, là, on est en 1835, ça fait 3 ans que c'est fini le canal rideau, puis ça fait encore plus de temps que ça que les Irlandais font la vie dure au monde à Bytown, parce qu'on se rappelle que Joe Monferrand a pitché du monde en bas du pont en 1829.
Et il manque maintenant 150 personnes.
Il manque maintenant 150 Irlandais qui sont peut-être tombés dans la rivière. Mais c'est ça, à ce stade-ci, c'est rendu tellement le Far West du Canada à Bytown que les fermiers ne veulent plus livrer leurs marchandises-là pantoute. Fait que là, les marchands peuvent plus vendre la marchandise, oh non!
Oh non, un colossal ma West!
Oh non! Et puis là, la guerre des Shiners devient de plus en plus politique aussi. Au mois d'août 1835, Peter Allen se présente à la présidence du Bathurst District Agricultural Society, qui était comme l'apothéose de la vie sociale à Bytown.
Je te crois.
Les autres bourgeois du coin se disent qu'il n'y a aucune chance d'être élu parce que ça coûte de l'argent pour aller voter, fait que c'est juste les riches qui votent. Puis les riches commencent à trouver que Peter Allen est pas mal sus. Sauf que personne ne voit...
Je pense que c'est lui le loup-garou.
Oui! C'est lui Secret Hitler. Sauf que personne ne voit venir le fait que Peter Allen va juste donner de l'argent aux Shiners pour se présenter aux élections puis voter pour lui.
Moi, je l'avais
ce
vu
qu'ils
venir.
Font.
C'est pas pour avoir l'air intelligente,
venir, toi. Fait qu'ils vont faire ça, puis Peter Allen et ses amis aussi, tous ces goons, sont élus à la tête du Bathurst District Agricultural Society.
Puis là, attends, je vais mettre mon chapeau surprise.
Les riches dans leur piscine de millions de oncles Pitsou sont comme « Oh non! » Encore une fois.
Will and the body shave us.
Ouais, là, ils disent, mon Dieu, mais c'est le temps de faire quelque chose.
Ah là là, est-ce que quelqu'un va venir nous délivrer?
Oui. Ceux qui vont venir les délivrer, c'est un groupe de propriétaires terriens bien nantis de Bytown qui, en octobre 1835, fonde la Société pour la préservation de la paix.
Oh!
Ils vont voir les magistrats de la ville de Bytown et les convaincre d'acheter 100 guns pour armer les citoyens.
100. C'est un beau chevron. J'aime 100. Ça. 100 fusils.
Mais on s'entend qu'il y avait 150 Shiners de moins à cause de Joe Monferrand.
Ah oui.
Fait qu'on sait pas trop s'il était à armes égales ou non. Mais c'est pas mal open season sur les Shiners. Puis c'est un peu weird parce que là, il est comme, ouais, on va juste comme faire des milices partout. Mais c'est ça leur idée jusqu'à date. Fait que justement, c'est des groupes de vigilantes qui s'organisent pour patrouiller les rues de Bytown et faire leur propre justice. Et il crée même un petit groupe qui s'appelle les Bytown Rifles qui va intervenir quand il y a des batailles avec les Shiners.
On dirait une équipe de football universitaire.
Les Bytown Rifles! C'est oui. Les Léopards!
Let's go!
C'est
les Bytown Rifles
les
contre les Léopards!
Voilà. Par contre, apparemment, le groupe se dissout pas mal vite parce que personne veut être dirigé par son leader, Captain Baker. Dans l'article du Historical Society of Ottawa, ça disait que Captain Baker était un martinet, J'ai cherché ce terme un peu partout. Et les définitions que j'ai trouvées sont les suivantes. 1. Il était un oiseau. 2. Il était un chandelier plat.
Ah, d'accord!
3. Il était un fouet à plusieurs lanières.
Ah!
Ou 4. Il était un lourd marteau.
Ah, d'accord.
Les deux dernières définitions suggèrent que peut-être qu'il était un petit peu un despote super violent avec les hommes de la milice. Hein?
Il était un oiseau.
Mais j'espérais qu'il était un oiseau.
Ou le chandelier dans La Belle et la Bête.
Mais c'était comme, no one wants to work for him, he's a martinet. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis je n'ai pas trouvé de... J'ai pas trouvé de définition satisfaisante. Je sais pas trop, là.
Écoute, c'est du vieux slang.
Alors...
Les gens qui étaient là en 1800, qui écrivaient-nous des courriels.
Voilà. Fait que, en conséquence du mot du Captain Baker, qui était peut-être un oiseau, les Rifles se sont dissous aussi vite que le groupe Carquois. Mais y aura-t-il, dans les Rifles, un comeback plusieurs années plus tard pour sortir un nouvel album, comme Carquois?
Comme Carquois?
Qui sait? Moi, je le sais. La réponse est non, parce que quelques années plus tard, la guerre des Shiners va être finie, tout simplement.
Oh, fait que pas comme Carquois.
Pas comme Carquois. Ben oui, ça va être fini, parce que en 1836, la violence n'a pas cessé pantoute, et une autre société se crée, celle des Barons du Bois d'Ottawa. Ils veulent arriver à mettre un terme à la violence dans leur industrie. Y arriveront-ils? Non. Oh. Pourquoi?
J'étais pleine d'espoir.
Parce qu'il y a freaking Peter Allen qui fait partie de leurs officiers.
Ah, oh, pas lui. Il gosse.
À quoi qu'il pensait, ça?
Je sais pas.
Donc,
ah oui, toi qui as déversé toute cette violence sur la ville. Comment qu'on peut te faire confiance?
Ben là, on va t'intégrer dans la compagnie des Barons du Bois pour protéger nos intérêts. Ben c'est certain.
Oui, on l'a averti.
Quelle bande de tweets! Fait que tout ce que ça lui permet de faire encore plus, c'est de protéger davantage encore ses intérêts en termes de timber, puis de comme solidifier son pouvoir politique sur la ville. C'est le fun au bout. Bon, partie 6, le début de la fin, a.k.a. faut jamais se mêler de la politique.
Non, 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 non.
Non.
Je sais pas pourquoi j'ai fait une référence à Miss Mania.
Bye, 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 bye.
Oh, bye, bye town.
Voilà. En janvier 1837, Peter Allen et sa gang de Shiners décident qu'ils vont encore une fois se mêler de la vie politique à Bytown, parce qu'il n'est pas encore devenu assez riche et puissant à son goût, Peter Allen. Il y a une élection de conseiller pour le Nepean Township Council, et Peter Allen veut en faire partie de ce conseil. Les élections se tiennent dans une taverne, c'est une super bonne idée, I guess.
Ah,
et
oui.
Allen est élu à titre de conseiller, mais il reste deux autres postes à combler.
Ah.
Alors Allen exige qu'il soit occupé par des Shiners. Puis là, drette quand les autres personnes qui sont présentes là sont comme « Non, 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 c'est pas le même que ça marche », il y a une gang d'environ 50 Shiners qui arrivent et prennent d'assaut le building. Certains allant même jusqu'à défoncer les fenêtres puis rentrer par là, parce qu'apparemment, ils étaient pas capables d'attendre de rentrer par la porte. Comme des humains normaux. Bon. Avec des bâtons et des fouets à cheval, ils ont commencé à battre les autres candidats qui étaient pas des Shiners.
Je m'excuse, c'est comme si moi, un matin, j'avais pas attendu que tu m'ouvres la porte puis que j'avais juste défoncé ta fenêtre de chambre. Audrey, je m'en venais. Non, Favrette!
Puis tu me tabasses avec un bâton.
Ouais. Comment oses-tu?
Non! Bon. Alors, les magistrats du coin interviennent et ils disent « Ben là, les Shiners peuvent pas être élus parce que les Shiners, c'est pas des propriétaires terriens. »
Non,
puis en
non,
plus, il y a juste
non.
Les propriétaires terriens qui ont le droit de voter. Puis là, ben, les magistrats qui sont intervenus ben, se sont fait tabasser eux autres avec. Puis tout le monde se sauve en panique totale. Puis il y a plein de documents importants qui sont super méga détruits par les Shiners. Non, mais sérieux, ils ont perdu comme plein d'affaires.
Mon Dieu, c'était, comme la c'était January 6th.
C'était comme January 6th de Bytown. Puis c'est tellement January 6th qu'à la fin, l'armée est appelée pour restaurer le calme.
Les nerfs! Est-ce qu'elle est rentrée par la fenêtre, elle aussi?
Ben, il était déjà défoncé! Ah, ouais, ça aurait été niaiseux de pas rentrer par là.
Coudon, ouais. Le Kool-Aid Man faisait partie des Shiners!
Non, lui, il défonce les murs.
Yeah!
Yeah! Puis là, cette histoire-là, là, ça sonne un peu le glas pour les Shiners, parce que suite à cet événement, ben, il y a une enquête officielle qui est faite par 4 magistrats de la ville, de Bytown, qui sont un peu tannés. Est-ce que c'est les mêmes qui ont été roués de coups après avoir dit « Ouais, mais ben, vous pouvez pas voter, vous êtes pas les propriétaires terriens? » On sait pas. Il y a une douzaine de témoins qui viennent témoigner et tout le monde dit que c'est la faute à Peter Allen. Wow, d'où est-ce qu'ils sortent ça, je sais pas.
Je sais pas.
Mais voyons donc, oui, va donc.
Voyons, il est innocent comme un agneau.
Va donc, chose, on l'a pas vu venir, ça. Bon.
Il a rien fait.
Peter Allen ne vient pas témoigner en sa propre défense.
Ah.
Et qu'à cela ne tienne, les magistrats décrètent qu'il serait peut-être temps d'instaurer une force policière officielle à Bytown, tu sais. Puis peut-être aussi construire une prison.
Ah oui.
Ah. Le journal de Gazette, qui n'a pas vraiment le goût de
attacher
se mêler
les fenêtres
de tout
comme
ça,
il faut, par exemple.
De la prison. Oui.
Excuse-moi, cette image est hilarante.
Ben, j'étais comme, c'est ben niaiseux, en tout cas. C'est juste pour faire du grabuge, là. Puis ben il faisait peur au monde pour vrai, les Shiners, tu sais.
Ben, j'ai peur.
Ben oui. Fait que le journal de Gazette, qui n'a pas vraiment le goût de se mêler de tout ça et de se faire péter la gueule comme les magistrats de la ville par les Shiners, d'abord, ils évitent de commenter l'affaire, mais ils finissent par avouer que, ouais, peut-être construire une prison, ce serait comme une bonne idée. Puis ils décident de s'en mêler, la Gazette, le jour où un groupe de 3 Shiners s'introduit par effraction dans la maison de James Johnson, un des candidats qui a été tabassé pendant
non, mais
le riot.
Ils pensaient que c'était comme ça qu'on rentre dans les maisons.
Ben non, mais ils sont rentrés, évidemment, dans le but de tuer le monsieur. Il y a des coups de feu qui ont été entendus et heureusement, personne n'a été blessé. Mais un peu plus tard, ben, M. Johnson a subi une autre tentative de meurtre et il a été embusqué sur un pont par les mêmes hommes armés. Puis il a seulement réussi à s'en sortir en se pitchant en bas du pont. C'était l'hiver, fait qu'il est tombé dans la neige. C'est comme...
Bang, ça glace!
Voilà. Il y a eu une fracture du crâne, mais oh, il s'en est sorti.
Je suis contente pour lui.
Et puis c'est ça que ça va prendre, qu'il s'attaque directement et ouvertement aux magistrats de même, pour que les autorités s'en prennent vraiment aux Shiners en retour. Les 3 hommes responsables des 2 attaques sur la personne de James Johnson sont arrêtés et envoyés à la prison à Perth. Elon les aide à s'échapper, apparemment, mais ils sont recapturés et condamnés à 3 ans de travaux forcés.
Courez pas assez vite.
Non. Puis ça commence à sentir la soupe chaude sur un moyen temps pour les Shiners. Peter Elon vend ou loue ses propriétés dans le bout et déménage à Aylmer du côté du Lower Canada, peut-être pour échapper à la justice du Upper Canada, on sait pas.
How dare you?
Et après cette désertion, c'est une véritable désertion de la part de leur leader, les Shiners disparaissent vraisemblablement, de sorte qu'on n'en entend plus vraiment parler après 1837.
C'est parce qu'il n'y avait personne pour leur montrer par où rentrer dans des pièces.
Non, fait qu'il était juste jamais à marcher dans le mur, à l'extérieur.
Point.
Point. Point. À ce stade-là, la population de Bytown est aussi rendue bien mieux organisée pour gérer leur monde. Et puis, ils sont beaucoup plus armés et beaucoup plus en mesure de se défendre. Et les Shiners se font oublier et tout redevient bien dans le meilleur des mondes. Et yay. Peter Allen dans tout ça. Du Lower Canada, il continue à runner sa business et il se calme apparemment jusqu'à devenir un membre bien respectable de la société. Il est élu au conseil de ville de Hull, par exemple, en 1846 et devient Justice of the Peace, LOL, en 1848. Et il meurt paisiblement dans son sommeil en 1868. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la guerre des Shiners. Y a-t-il eu des conséquences pour ces gens? Non.
Et que je suis fâchée!
Sauf les 3 personnes qui ont essayé 2 fois de tuer quelqu'un puis ont eu 3 ans de travaux forcés.
Je suis vraiment fâchée! Il a pu continuer de runner une business!
Ah,
il est devenu juge de paix!
Il est devenu juge de paix puis il était dans le... Il était comme... Il était échevin, là. Il était conseiller de ville à Hull. Comme 10 ans après ça. Toi, on avait oublié qu'il avait juste envoyé...
Qu'il y avait sa gang de gonds.
Il avait lâché ses chiens sur tout le monde dans le coin de Bytown. Toi, on avait oublié ça. C'était pas vraiment important.
Ah, il s'en est remis. On laisse une deuxième chance.
Oui, voilà.
Et puis, je suis fâchée.
Ouais, je sais. Puis ça, c'est une affaire qui est comme pas tant gros discutée. C'est comme une période assez tumultueuse de l'histoire de Ottawa. Depuis, la ville est devenue beaucoup plus plate.
Ouais,
mais
très
comme,
plate.
Dans le bon sens, parce qu'on voudrait pas...
Ouais, je veux pas ravoir non plus du monde qui pète des...
Ben, c'est ça j'allais dire. On voudrait pas risquer ce niveau-là de danger en se promenant à Ottawa. Mais c'est comme... Ouais, on en parle pas beaucoup de ça. Puis tout ça, c'est parce qu'ils ont construit le canal rideau en soupayant les Irlandais. Puis après ça, ils étaient comme, ouais, arrangez-vous, là.
Puis eux, ils étaient comme, OK, on va
ben, on vit
partir
dans
du
coin.
Crime organisé.
I guess, ce gars-là, il engage, puis on n'a pas de job. Ouais. On va faire ça.
On va péter des
yeux. Faut qu'on aille déshabiller des enfants puis les pitcher dans la neige. OK, on fait ça.
Avec plaisir.
Avec plaisir. En tout cas. Et voilà, c'est l'histoire de la guerre des Shiners.
Moi, je continue d'espérer que ça va être adapté en série par la CBC.
Ce serait vraiment bon.
J'espère que ça va être écrit par Jason Kelso, qui a écrit... Jason Kiesel, qui a écrit Letterkenny avec le même humour. J'espère que ça va être dans le même style.
Ben, ce serait l'humour noir.
Ben, c'est de l'humour noir, Letterkenny.
Oui, oui, je sais, mais là,
l'humour très deadpan.
On pourrait skipper le bout de mutilation des animaux, puis
oui,
les, acheter les femmes enceintes en bas des traîneaux. Là.
Oui, s'il vous plaît, on peut skipper ça et très bien comprendre ce qui se passe.
Et juste tiquer sur défoncer les fenêtres d'une taverne pour rentrer plus vite.
Oui, ça, je veux que ça devienne le gag récurrent.
Mais là, c'est...
Oh, tabarnak!
Je viens d'échanger. Toi.
Hey!
Je viens juste d'échanger, c'est ça?
Puis là, le gars qui fait des fenêtres, il est comme loadé.
Il est tellement riche.
Il a des souliers en or.
Puis là, c'est comme, j'ai aucun intérêt à arrêter les shiners, je veux faire une porte.
Eh oui, ils comprennent pas les portes. Le
c'est
gars qui fabrique
ça
des
dit
portes.
Tirer, puis eux autres, ils essaient de pousser.
Ouais.
Pauvre.
Les gars, j'ai une solution, ping!
Voilà.
Flinka, flinka, fling! C'est moi qui imitais du verre brisé.
Pinka, flinka, flinka, fling.
Exactement.
Moi, c'est j'aime ça. Plus le bruit.
Voilà. T'as raison.
Pas pire, hein?
Ouais, c'est bon, ça. Voilà. Oh my god, on arrête pas de péter des fenêtres!
Effet sonore!
On se fait attaquer! Ah!
Non!
Alors, c'est juste une façon
d'écrire. C'était une histoire sur les Irlandais.
C'était excellent.
Voilà.
J'ai adoré ça. J'ai adoré le caméo de Joe Monferrand.
Je sais! J'étais un petit peu déçu qu'il n'y avait pas plus d'affaires que ça.
Ben, il a quand même pitché 150 personnes.
Mais il a pitché 150 personnes en bas d'un pont, mais ça n'a absolument rien empêché de tout ce qui s'est passé par la suite.
Non, mais...
Ça a juste comme... Ça a mouillé 150 personnes, là.
Il y a 150 personnes qui ont participé à une compétition de nage synchronisée puis ils n'avaient rien demandé.
Dans une rivière.
Ils ont fait du river dance littéralement in
the
river.
Oh, tant mieux pour eux. Fait que ouais, il y avait un certain lien avec le Québec. Il y avait beaucoup de crimes, ça on se le demande.
Il y en avait beaucoup.
C'était le lien avec le Québec.
Ah oui, maintenant ça déborde. Là.
Voilà, c'est l'histoire des Shiners. La prochaine fois, je vais revenir avec une histoire triste.
Mais là, tu m'as dit que moi, je devais revenir avec une histoire drôle.
Ben, s'il te plaît, là, parce que ça fait plein de meurtres terribles.
Oh my god!
Oh my god!
C'est ma faute s'il n'y a pas le chatouilleur en série.
Non! ça serait creepy, ça. J'aimerais pas ça. Oh, ça serait weird. Non, j'aimerais pas ça.
Bon, ben, attendant que je trouve un cas rigolo.
Oh, on a encore oublié de faire nos plugs au début de ça.
Ouais, on s'écoute pas parler. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en savoir plus sur notre podcast de crime, on vous invite à nous suivre sur Facebook, @ un peu de crime, sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. Si vous aimeriez vous gâter, vous procurer de la marchandise, nous avons une boutique Etsy pour le faire. On va être dû pour de la nouvelle marchandise, alors peut-être que je vais faire québécoise!
Oui.
Ou... D'autres choses, si vous avez des idées, vous pouvez toujours nous le dire.
C'est ça que c'est d'être québécoise. Il faudrait trouver la citation du monsieur. La façon
c'est ça,
qu'il
être
avait...
québécoise.
C'est ça, être québécoise, voilà. La façon
c'est
qu'il
ça,
avait
une québécoise.
C'est ça, une québécoise.
Alors, ou si vous aimeriez être nos Médicis.
Oui.
Nous avons
très
une
bonne
patronne.
Référence.
Oh, je me donne des petites tapes dans le dos.
C'est comme dans les Borgia avec François Arnaud.
Foufou. Sauce graine. Alors, si vous voulez...
Quoi?
Oui, le foufou sauce graine du restaurant, là, qui ton feu sur les réseaux sociaux.
De quoi tu parles?
Le restaurant La Belle Afrique, dans Montréal-Nord, que tout le monde capote, puis leur spécialité, c'est le foufou sauce graine, puis là, tout le monde capote, puis voilà, pour manger du foufou sauce graine.
C'est-tu bon?
Paraît que
c'est vraiment bon, du foufou.
Paraît que c'est excellent, mais l'assiette est quand même chère, puis il y a toujours comme 2 heures d'attente, et c'est dans Montréal-Nord.
Oui, ben c'est quand même un nom pour que ça devienne un plat assez viral, mettons.
Oui.
Pas dans le sens d'un virus, mais dans le sens de tout le monde regarde ça.
Exactement. Tout le monde se bourre la fraise.
J'ai pas entendu parler du foufou sauce graine. C'est très bon.
Voilà, maintenant oui.
Voilà.
C'est parti de la gang.
Yay!
Alors, si vous aimeriez être sur notre Patreon pour qu'on ait le budget pour se payer du foufou sauce graine, nous avons une plateforme Patreon et pour différentes contributions, vous avez différents avantages, mais peu importe lequel vous choisissez, éventuellement vous allez avoir des épisodes sans annonce quand on va arrêter d'oublier.
Et mal faire tout de suite, là!
Non, mais c'est correct, on a des emplois à temps plein aussi.
Non, mais c'est correct.
Et Catherine
là,
fabrique la vie.
Tu vas lire des chanteurs.
Ah oui,
anyway,
pendant que je
chante. J'ai rien d'autre à faire, OK?
Et vous avez accès à notre Patreon, qui est l'espace avec les plus gentilles personnes de l'Internet. Vous pouvez discuter avec elles. On a même des comptables si vous voulez jaser de vos impôts. Je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais écoutez, apparemment, c'était un besoin, et alors je vous ai donné un espace pour le faire. Et sinon, quand vous vous abonnez, on vous remercie en ondes publiquement. On vous invite à monter sur la scène, qu'on vous applaudisse.
Oui.
Alors, là, Catherine est occupée, alors je vais les faire moi-même.
Ah, je vais applaudir.
Merci, Constance Faubert. Merci, Daria Desjardins. Merci, Amélie. Ça fait plusieurs fois qu'on dit merci, là. Mais Amélie, merci. T'es bien fun sur Discord. Merci, Laurence Forget-Lamarre. Merci Valérie Pageau. Merci Super Jen.
Ah, c'est bon comme nom, ça.
Yes, sir. Merci Karine Nollet.
Mm-hmm.
Merci Isabelle Bolduc. Merci Hélène Gauvreau. Merci Van Gogh. Van Gogh?
Van Gogh?
Van Gogh.
Van Gogh.
Merci, t'as un beau nom. Merci Caroline Lahaye. Merci Melinda Constant. Merci Véronique et Eva. Merci Marie-Pierre. Et merci Claudine H. Zed Ben Blood. Et on espère que vous aimez vos nouveaux avantages et que vous aimez pouvoir vous distinguer de la société en étant des Patreons.
Oui.
Un peu de crime.
Oui.
Et là, pour que tu puisses te détendre après nous avoir raconté des histoires de Shiner,
oui.
Je vais pouvoir te détendre.
Ouais.
J'ai décidé de faire quelque chose de spécial pour la fin de cet épisode. Et au lieu de te raconter un épisode de que t'as chose,
ouais.
J'ai décidé que j'allais te raconter une pièce de théâtre.
Oh oui, c'est vrai!
Vas-y. Une pièce de théâtre que j'ai vue quand j'étais au cégep.
J'ai hâte.
Et mon cerveau a comme décidé que les étapes du bouche-à-bouche n'étaient pas importantes, mais me rappeler de cette pièce-là dans ses moindres détails, ça, c'est vraiment important.
Oui.
Fait que si un jour j'ai des enfants, je vais juste pour te dire « Oh my God, c'était cette pièce-là, what the fuck?
Mm-hmm. »
Alors, place au théâtre! J'aimerais te ramener en 2009, je crois,
nice.
À la petite licorne. C'est sur le plateau.
Je sais c'est quoi.
Il y avait la pièce, ça s'appelait Pi. Pi, trois petits points, point d'interrogation.
Pi comme 3.1416 ou Pi comme
ouais, parce qu'il n'y a pas le S, fait que c'est comme Pi comme 3.1416.
OK, ouais.
Pi est une pièce.
Ouais.
Écrite.
Ouais.
Par Christian Bégin.
OK.
Mise en scène par Christian Bégin.
Nice.
Avec le premier rôle. Christian Bégin.
C'est bon, ça. Ça sonne comme du Xavier Dolan.
Ça sonne comme un triple threat, là. Comme
ouais.
Clairement qu'on allait être comblé.
Avec un petit verre de vino.
Exactement. Puis c'était à l'époque où cette vidéo-là de Marc Labrèche était vraiment populaire.
Pour vrai!
Fait qu'aller voir Christian Bégin au théâtre, c'était comme un challenge de pas partir à rire.
Oui.
En partant.
Oui.
Puis là... la pièce, avant même que ça commence, on distribuait des pamphlets.
Mm-hmm.
Et le pamphlet, la première ligne, c'était Christian Bégin qui avait rédigé le pamphlet, tu sais,
mm-hmm.
pour sa pièce qu'il avait écrit, qui le mettait en scène, etc.
Oui, oui.
Et la première ligne, c'était Christian Bégin qui citait Christian Bégin.
Ça commence bien, j'aime ça.
Et la citation, c'était « Quand tu commences à vivre, tu commences à crever ».
Quoi?
C'est comme vraiment très deep, tu sais.
Carpe diem.
Philosophie bro.
Ouais, OK. Quand tu commences à vivre, tu commences à crever.
Exactement.
OK.
Yes.
Nihiliste bro, hein, t'as
pas mal. C'est ce gars qui écoute du Nine Inch Nails puis qui fume des cigarettes noires.
Oh non. C'est quoi ça, des cigarettes noires?
Ben, c'est des cigarettes, mais le papier est noir.
Pourquoi?
Ça a déjà été cool.
Ah oh, ouais?
Ouais.
Mon Dieu, OK.
Fait que là... au niveau de la scénographie,
oui.
qui avait aussi été faite par Christian Bégin,
oui, bien sûr.
Je pense qu'on nous prenait pour des crétins finis.
OK, pourquoi?
Puisque la pièce de théâtre, ça racontait en gros un souper entre amis. Alors, on était dans une cuisine
oui.
fonctionnelle,
oui.
avec un four oui. fonctionnel,
hein?
Qui faisait vraiment de la chaleur et... tout dans la cuisine fonctionnait pour de vrai. Il y avait vraiment un frigo avec de la bouffe dedans,
pourquoi?
Une table, etc. Parce que d'un coup, qu'on comprenait pas ce qui se passait.
Ah, OK.
Alors, Christian Bégin jouait... Christian Bégin, non, il jouait un gars.
Il jouait Bristian Bégin.
C'est ça.
Oui.
Il jouait un homme dans la quarantaine qui, après un accident, était mort pendant... 3.14 minutes.
Parce que quand on commence à vivre, on commence à crever.
C'est ça, mais là, il était revenu à la vie. Puis là, depuis ce temps-là, il était bien depressed, tu sais. Parce que comme il a vu c'est quoi mourir, tu sais. Puis là, il a vu que c'était comme plate mourir, tu sais. Puis là, sa femme est comme...
Il y a personne qui a dit que c'était le fun de mourir.
Puis là, sa femme, je me rappelle pas c'était qui l'actrice.
Mais là, attends, moi, je cherche
attends,
ça.
Attends,
ouais, je
sais
ça.
Sur le web.
Et on peut trouver ça sur le web.
Les internets, là. Ils ont toutes.
Pis!
Puis trois petits points, point d'interrogation.
Question.
Théâtre la licorne. Oui, c'est ça.
Oh non, la pièce a été publiée.
Sa femme, c'était donc Marie Charlebois.
Oh, je ne sais pas c'est qui.
Moi non plus. On espère que tu vas bien, Marie. Ah oui, c'est ça la pièce, en 2009, à la licorne.
Oh non!
Ah, finalement, c'était à la grande licorne.
Oh non, mais il y avait Isabelle Vincent là-dedans.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle faisait là?
Elle faisait la femme de son meilleur ami.
Puis Pierre Paquette.
C'était son meilleur ami. Ça, c'était le frère handicapé qui avait une déficience intellectuelle de la femme de Christian Bégin.
Mais bon. Pauvre comédien!
Alors,
okay, oui.
C'est ça, Emmanuel, il s'appelait Emmanuel, un homme de 45 ans, miraculé, revenu à la vie, complètement
oui.
transformé. Il impose cependant le silence autour de cet événement lors d'un ennuyeux souper entre amis où tous évitent le sujet interdit.
Okay.
L'arrivée impromptue d'un visiteur viendra mettre un peu de piquant, le visiteur étant Patrice Cockerell.
Un peu de crime dans leur café.
C'est ça. Mais là, les gens arrivaient, tu sais, pour le souper. Et là, le souper était bien plate et le souper brûlait. Alors, il décidait de commander de l'Indien.
OK.
Puis là, en attendant le souper, il décidait de faire des charades.
OK.
Alors, pendant 3 minutes,
oui.
nous avons regardé Christian Bégin, Isabelle Vincent et trois autres comédiens dont le nom m'échappe,
oui.
Écrire des idées sur des papiers, les rouler et les mettre dans un bol.
Il pouvait pas faire ça avant?
Non, parce que, comme tout le monde, clairement, qu'on aurait été comme « What the fuck? » Comment ça qu'il y avait déjà un bol avec déjà des idées dedans?
Oui, non,
ça aurait pas de sens.
Ça aurait brisé la règle de vraisemblance du théâtre.
Puis là, ça fait juste tourner au vinaigre.
Ouais.
Puis là, ça dérape et on apprend que tout le monde a déjà eu une aventure avec tout le monde. Et
ben,
que,
classique.
Le meilleur ami de Christian Bégin,
ouais.
qui est un prof d'université, sa femme, Isabelle Vincent, son personnage était anglophone. Pour une
oui.
raison obscure, et elle avait le pire accent anglophone que j'ai jamais entendu.
Ouais,
mais respect à Isabelle Vincent, que je trouve qui est une excellente comédienne,
oui,
mais
oui,
juste
mais
pas là-dedans.
C'est pas une anglophone. C'est...
Tu fais ce que tu peux avec le texte qu'on te donne.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Puis là, elle faisait juste révéler complètement out of the blue que son mari couchait avec toutes ses étudiantes.
OK, oui.
Et qu'elle, de toute façon, elle comprenait qu'il ne veuille plus coucher avec elle parce qu'elle avait des seins vraiment laids.
100%.
Là, j'étais comme, merci pour le body positivity.
Ben oui. 2009, fallait pas trop...
Non,
fallait pas s'attendre à trop,
là. Puis aussi, Christian Bégin faisait juste crier après tout le monde tout le temps. Parce que à toutes les fois qu'il y avait un mot qui se rapprochait à la mort, il était comme, non, parle pas de la mort! Non! Puis là, le souper est juste comme fucking malaisant et une version achetée sur Wish de Who's Afraid of Virginia Woolf.
Je comprends rien à ce qui se passe, ouais.
Et c'était juste ça, c'était okay. juste du monde qui s'engueulait autour d'une table.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, l'Indien arrive, puis là, c'était tellement réaliste comme mise en scène que je me demande quasiment s'ils ont actually commandé de l'Indien.
Nice.
Et là, le monde, il jasait, puis là, Patrice Cockerell, qui jouait une personne avec déficience intellectuelle...
Ça part toujours bien.
Oui. Il disait que le personnage de Christian Bégin, c'était Jésus, parce qu'il était revenu à la vie. Puis là, Christian Bégin, il voulait pas en parler, puis il était comme « Non, non, on parle pas de ça, non! » Puis il était comme « Non, mais t'es Jésus! » Puis il était comme « Non, 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 on parle pas de ça! » Puis là, le souper, les chicanes n'arrêtaient pas de monter, puis de monter, puis de monter.
Oui, 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 oui.
Puis à un moment donné, Patrice Cockerell mange un pain d'âne,
oui.
s'étouffe
oui.
et meurt.
Quoi?
Et c'était comme ça que la pièce s'est terminée.
Un pain d'âne, c'est-tu pas la chose la plus molle, puis
comme...
tu t'attendrais pas à t'étouffer avec ça, mettons?
C'est comme ça que le souper se terminait, puis là, après, Christian Bégin puis sa femme étaient comme « Ah, oh, maintenant, on sait ce qu'on a à faire. » Et ils se
Quoi?
Séparaient.
Ouais.
Puis là, tout le long de la pièce, il y avait un écran de télé au fond de la cuisine.
Ouais.
Parce que on était comme dans la cuisine de Christian Bégin.
Ben, oui, 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 oui.
Puis là, il y avait un écran de télé avec des yeux fermés.
Ouais.
Puis là... Sur l'écran de télé, on voyait que comme ça devenait noir. Puis là, ça disait « Nom du personnage du meilleur ami de Christian Bégin a vécu jusqu'à telle année et il est décédé de telle façon. » Puis là, après, « Le personnage de Isabelle Vincent a vécu jusqu'à telle année et est décédé de telle façon. »
OK.
Puis là, la femme de Christian Bégin, ils se sont séparés après souper, mais elle s'est remariée, elle était heureuse et elle est décédée en telle année. Puis là, Christian Bégin, c'était lui qui vivait le plus longtemps.
Ouais.
Ça disait que finalement, il a lui aussi rencontré une autre femme.
Ouais.
Et que là, c'était elle, l'amour de sa vie, qu'il a réalisé que toute sa vie d'avant, c'était juste des erreurs. Et là, il était maintenant heureux et il a vécu plus longtemps que tout le monde.
Ben, c'est quoi le rapport?
Puis là, ça finissait que les mots disparaissaient. Puis là, les yeux ouvraient.
Wow!
Pis c'était les yeux de Christian Bégin.
Ah!
C'était ça, la pièce de théâtre. C'était juste du monde qui s'engueule autour de table pendant un souper raté. Et Christian Bégin qui faisait juste crier après tout le monde, sans arrêt. Je pense que ça durait 2 heures et quelques.
Ben c'est bien épais!
C'était ça, la pièce de théâtre. C'était incroyable!
Il y a sûrement plein de subtilités que je ne capte pas.
Ou que j'ai pas capté dans mon cerveau de 18 ans, t'sais.
Sûrement des choses qui m'échappent.
Je me rappelle...
C'est de l'art, ça doit avoir une signification!
Ben, je me rappelle que c'est là que j'ai fait, tu sais, il y a des comédiens qui sont meilleurs à la télé, il y a des comédiens qui sont meilleurs au théâtre, il y a des comédiens qui sont excellents dans les deux, et il y a Christian Bégin.
Ouais.
Qui, en passant au théâtre, on peut projeter sans crier... Et je pense que personne n'a cru utile de le dire à Christian Bégin.
Mais c'est lui qui a fait la mise en scène aussi, fait qu'il s'est dirigé de même.
Il était comme, oh, là, je vais crier pendant 2 heures.
OK.
Puis je me rappelle...
You do you, mon homme.
Qu'il y avait vraiment de la fumée qui sortait du four quand il brûlait le souper.
Ouais.
Tout était comme hyper réaliste. Il y avait un téléphone qui sonnait. Il y avait comme une télé qui fonctionnait. Comme...
Ouais.
C'était, je pense que la deuxième pire mise en scène que j'ai vue comme ça, c'était au Théâtre du Cep. Que c'était une pièce de théâtre qui se passait dans un chalet, fait qu'il y avait un chalet sur la scène.
Ouais, ouais.
D'un coup, qu'on comprenait pas ce qui se passait, tu sais.
Ouais.
Vraiment important.
Ouais. Fait que je suis présentement en train d'enseigner le théâtre québécois.
Là, tu vas leur parler de cette pièce-là, là.
C'est ça, je suis en train de considérer.
C'est un grand classique du théâtre.
Tu sais, mettons, demain, ils ont un examen, mais peut-être l'autre cours après. On sait pas, hein. Il va peut-être arriver une bad luck aussi, puis peut-être que j'aurai jamais la possibilité de leur en parler.
Mais là, finalement, je me suis dit, ça s'appelle Pi, ça doit être parce qu'il est mort pendant 3,14 minutes.
Non, pendant 17 minutes!
Finalement, il est mort pendant 17 minutes, fait que le titre de la pièce n'a juste aucun rapport. Ils ont juste fait une faute d'orthographe. C'était...
Mais comme on peut ne pas... On peut ne pas faire ça.
On peut ne pas faire de pièces de théâtre.
Ben, je veux dire, on peut faire des pièces de théâtre, c'est le fun, des pièces de théâtre. Mais on peut ne pas faire ça, puis reculer juste un petit peu. Parce que c'est quand même plus le fun du théâtre expérimental que ce que tu viens de me décrire, là.
Oui.
Puis, comme, mettons, l'absurde, où est-ce que t'as comme pas de décor, y a pas d'histoire, puis c'est quand même plus amusant.
Ouais.
Et ça fait plus réfléchir que ce que tu viens de me conter, là. Fait qu'on n'était pas obligé d'aller plus loin que UNESCO, guys. On peut continuer à monter du UNESCO puis du Beckett. Moi, j'aime bien ça,
Beckett. Je veux dire, vous pouvez continuer à faire des pièces de théâtre où est-ce que le décor, c'est 2 chaises.
Puis Michel-Marc Bouchard. C'est bon. C'est mon boy, Michel-Marc.
C'est ça. Mais on peut continuer de faire du théâtre où est-ce que la scène, c'est 2 chaises.
Puis de plus en plus de chaises. C'est une référence aux chaises de UNESCO, ton enfant.
Exactement.
Mais oui, c'était bon, ça.
Aussi, la pièce Le bruit et la fureur, que...
Ah, c'était bon, ça!
La mise en scène, c'était juste... Il y avait comme une scène sur la scène.
Sur la scène, oui.
Puis des chaises autour. Puis quand c'était le tour du personnage d'aller faire son monologue, il se levait, puis il allait...
On était allé voir ça à l'Espace Go, right? Ouais. Ça fait longtemps.
Ouais. On était au cégep, les deux.
Oui, c'est ça, on était au cégep. Oh, c'était vraiment bon, ça!
Ouais!
C'était vraiment bon! C'était avec Pierre-François Lejeune!
Oui! C'était prenant!
C'était tellement bon! C'est là que j'ai découvert qu'il était bien plus que Carlos.
Oui, c'est un acteur.
C'est vraiment un bon acteur.
Oui. Je me rappelle que tout le monde était bon dans cette pièce-là.
Ouais. Oh, wow, c'était bon ça, le bruit à fureur. Merci de m'avoir rappelé ça.
Ça m'a fait plaisir.
C'était le fun.
Mais comme, honnêtement, j'ai des meilleurs souvenirs des pièces de théâtre que j'ai été voir, que le décor était beaucoup plus simple, puis c'était beaucoup plus axé sur le texte de la performance.
Oui, ben c'est toujours un bon...
Puis tu sais, même... On peut prendre des textes hyper classiques, mais les adapter d'une manière très comme simple. Je me rappelle d'avoir été voir Othello à l'usine C avec Pierre Lebeau.
Ouais. Oh, wow! Ça va être beau, ça!
Oh, c'était incroyable. Ouais. C'était tellement bon. Puis c'est l'usine C. Fait que l'usine C, c'est... tu sais, la scène est plus basse que le public.
Oui.
Puis c'était très dépouillé. Les acteurs, encore une fois, ils étaient sur des chaises à l'écart, fait qu'on les voyait, ils étaient jamais vraiment sortis de scène.
Mm-hmm.
Puis vraiment, la seule chose qu'ils avaient, c'était des costumes, mais même là, leurs costumes, Tu sais, il y a juste Othello qui avait une veste militaire, mm-hmm. mais sinon, il était juste habillé bien ordinaire, mais il avait une veste militaire pour dire que c'était Othello.
Mm-hmm.
Puis, eux, à la fin, quand Othello tue sa femme et qu'il se tue lui-même,
mm-hmm.
Il y avait comme une grosse couverture très lourde qui tombait du plafond puis qui leur tombait dessus.
Mm-hmm.
Ça finissait comme ça. C'est comme si ça étouffait la pièce. C'était vraiment une belle mise en scène.
Mm-hmm.
Fait que moi, je vous encourage, les gens qui nous écoutent et qui sont dans le milieu du théâtre,
mm-hmm.
ne nous prenez pas pour des cons. On mm-hmm. est capable de comprendre une histoire, même si votre décor, c'est une serviette, une chaise puis un trombone.
Mm-hmm.
Allez-y, faites confiance au texte, faites mm-hmm. confiance à votre interprétation. Mm-hmm. Allez-y avec votre cœur, vos tripes.
Mm-hmm.
On aime ça. Mm-hmm. Alors voilà, c'était une des pires pièces de théâtre que j'ai vues.
Mais il y a des bonnes pièces de théâtre.
Ben oui, c'est pas le contraire.
Je voulais faire, je regardais mon téléphone parce que j'essayais de me rappeler où j'avais vu cette pièce et quand. Mais une des pièces que j'enseigne à mes étudiants.
Oui.
Une des pièces qu'on lit ensemble. C'est Caligula Remix de Marc Beaupré.
Ben oui!
Parce que ça aussi, c'est comme, tu prends un texte classique, parce que lui, il a pris... Ben là, c'est...
Caligula de Camus?
Ben, c'est ça! Ça, c'est comme, c'est de la grosse mise en abîme, parce que c'est Caligula de Camus qui reprend l'histoire de l'empereur Caligula,
ouais.
qui était un empereur romain. Fait que c'est ouais, comme, ouais. c'est du recyclage. Puis c'est juste comme une table en forme de pic à guitare, puis au bout, ben t'as le gars qui fait Caligula, qui va jouer Caligula, puis après ça, il y a le chœur. Puis il va comme... c'est comme s'il était le metteur en scène en plus du personnage principal, parce qu'il dirige les autres, puis les autres deviennent alternativement les autres personnages de la pièce. Puis tu vois juste la table, les consoles de son, les micros, les films, tout le monde est habillé normal.
C'est ça, on n'a pas besoin de beaucoup, là.
Il y a des manières vraiment intéressantes de faire du théâtre avec plein de sortes de textes.
Non, puis j'avais été voir
une... Fait que ça n'a pas obligé d'être des décors réalistes.
J'avais été voir une pièce aussi à l'Espace Libre.
On est allé voir Caligula Remix ensemble?
Non.
OK.
Mais j'avais été voir à l'Espace Libre une pièce, je crois que ça s'appelait L'Affiche.
OK.
C'était une jeune troupe de théâtre et on était encouragés à s'asseoir n'importe où.
Mm-hmm.
C'était puis l'espace libre, c'est vraiment comme un grand espace assez, ben le nom dit là, un grand espace libre.
Ah ben.
Et c'était sur le conflit israélo-palestinien et je tiens à dire que je suis allée voir cette pièce au Cégep. Ça date pas d'hier.
Le conflit israélo-palestinien.
Oui.
Ben ça date depuis qu'ils ont fondé.
Ça date Israël. De toujours.
Ben c'est ça.
bon là il y a une certaine chose à dire qu'il y avait des personnes blanches qui jouaient des personnages arabes, mais comme on était en 2009, on pensait pas à ces choses-là dans ce temps-là.
Mais yo, ils ont fait ça à répétition dans Incendie de Voyage du Mauvais.
C'est ça.
Dire, au théâtre et au cinéma avec Denis Villeneuve, là.
Puis, c'est ça, ça se passait en Palestine.
Oui.
Puis, ça parlait des... les affiches, dans le fond, c'est les jeunes qui s'enrôlent dans l'armée et qui font des attentats terroristes.
Mm-hmm.
Et après, c'est que c'est leur famille qui imprime des affiches pour les exhiber comme martyrs.
Mm-hmm.
C'était vraiment très beau. Puis pour exprimer la guerre, les explosifs, puis tout ça, les acteurs se lançaient des fruits.
Oh!
Mais plus que la pièce avançait, puis que les gens pitchaient des pommes...
Il oui.
Y avait une femme aussi, à un moment donné, qui elle portait comme le tchador,
mm-hmm.
puis elle faisait comme si c'était une femme enceinte, mais finalement, c'est qu'elle avait caché une bombe.
Mm-hmm.
C'était un melon d'eau, puis elle le prenait, puis elle le lançait par terre.
Mm-hmm.
Puis plus que la pièce avançait et plus que ça sentait le tabarnak,
mm-hmm.
parce qu'il y avait des pommes effoirées partout, le mm-hmm. melon d'eau éclatait à terre, il se lançait tellement de nourriture,
mm-hmm.
mais c'était des fruits, mais comme ça exprimait vraiment bien le côté comme écœurant, en plus de voir des fruits gaspillés par terre.
Ouais.
C'était incroyable. Puis
ouais.
C'était ça, la mise en scène.
Mais il y avait peut-être un jeu aussi sur l'odeur des corps. Si on prenait, mettons, des fruits qui étaient pourris, ben la putréfaction des cadavres, puis tout ça.
Oui, mais c'est aussi que...
T'as fait rien.
Tu sais, la pièce était quand même longue, puis mm-hmm. il ramassait rien.
Ben non.
Fait que ça se sentait vraiment mauvais à la fin de la pièce. Fait que c'était vraiment une expérience multisensorielle.
Mm-hmm.
Qu'il n'y avait pas besoin de mettre du sable puis des tanks dans la pièce. Puis on avait compris.
Ah, OK.
Fait que là, hey, on dérape.
Ouais.
Mais s'il y a des gens
qui... temps de conclure ça.
S'il y a des gens qui font du théâtre, faites confiance au texte. Faites confiance à votre interprétation.
Oui.
Tâchez pas.
Ouais. C'était la fin de la pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Rideau!
Fin, rideau! And Christian Bégin, si tu nous écoutes, viens pas me péter à gueule.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.